compagnon de lecture. Bouillon de lecture, eh bien nous arrivons au terme de nos émissions d'été autour du livre de Manon Moreau, Le vestibule des causes perdues.
Hélas, hélas, l'été est fini.
Catherine et Hervé vous ont raconté les pérégrinations de Marat, de Bruce, de Sept-Lieux, du Breton,
d'Arpade
et de bien d'autres. Nous allons continuer aujourd'hui et puis nous vous laisserons le soin de terminer le livre tout seul.
Tout en disant bien, si tu le permets Dominique, que nous n'en sommes pas à la fin du bouquin. Hein. On en est environ aux trois quarts, ils sont en Espagne mais ils ne sont pas encore arrivés à Santiago. En conséquence, si vous voulez connaître la fin des aventures, eh bien, vous n'avez qu'à lire ce livre.
Voilà, c'est le but de l'émission, c'est de vous donner l'envie de lire le livre.
Le vestibule des causes perdues de Manon Moreau. Le vestibule des causes perdues. Fille de diplomate, Isabelle avait gardé de son enfance le goût des ailleurs, le don des langues et une existence nomade que ces jours-ci l'avaient menée en Espagne, où elle tenait pour quelques mois le petit refuge de Los Arcos. Elle avait été pèlerine à l'automne passé, partie du Puy le 29 juillet, arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle le 3 octobre. Entre-temps, elle avait fait halte à Los Arcos, épuisée par une journée de marche sur les longs chemins blancs. C'était début septembre, du linge séchait dans le jardin. L'hospitalero accueillait les pèlerins sur la terrasse, à l'étage, les chambres claires. Isabelle s'était immédiatement sentie bien dans cet endroit. Et quand elle avait appris que le refuge était en mal d'hospitalero pour le printemps suivant, elle avait souri, juste souri de son sourire immense qui laissait pantois quiconque le croisait. Elle y avait pris un jour de repos, exploré le village, sa place des arcades, les épiceries, le bar, les rues dormantes de l'après-midi, et était partie le lendemain comme si de rien n'était, mais avec en tête une drôle d'idée qu'elle avait tournée dans tous les sens jusqu'à Santiago. Là-bas, elle avait encore marché jusqu'à Fisterra, où elle était restée 5 jours les pieds dans le sable, sous le soleil dont elle avait éperdument besoin. Puis, un matin, elle avait bouclé son sac à dos et pris la route, tourné le dos à la mer, puis à la Galice. Elle avait emprunté le chemin à l'envers et c'était comme un autre chemin. On la prenait pour une originale et on avait peut-être raison. Peu lui importait. Elle avait toujours été différente. À part ça, ça lui allait. Elle croisait des pèlerins en route pour Santiago, assoiffée de conseils, lui demandant de raconter son arrivée à la cathédrale, les premiers pas dans la ville, et en nostalgique, mélancolique, heureux, quitter le chemin, n'est-ce pas trop triste ? Isabelle disait « Je n'en sais rien, comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore quitté ». 3 semaines plus tard, elle était de retour à Los Arcos, où elle avait bien l'intention de poser son sac un moment. L'hospitalero l'a reconnue immédiatement. Il envoyait passer des pèlerins, mais des marcheurs comme Isabelle, sexy en diable, les cheveux pris dans un turban blanc qui tranchait avec sa peau de métisse, jamais. Isabelle lui exposa son projet. D'habitude, le refuge était fermé de fin octobre à Pâques et on n'avait encore trouvé personne pour accueillir les pèlerins à la réouverture. Alors Isabelle avait proposé « Je fais l'hospitalera toute la saison prochaine, à une condition, je le garde aussi ouvert cet hiver. » Il avait fallu négocier sec, on ne bouscule pas aisément les habitudes communales. Mais rien ne résistait à Isabelle, rien. Dans son castillan parfait, elle avait expliqué que les commerçants et le bourg auraient tout à y gagner, que ce n'était jamais bon de fermer une maison. Bientôt, l'hospitalero aurait plié bagages, les pèlerins arriveraient moins nombreux et Isabelle s'était retrouvée seule dans la petite maison blanche. Avait enfilé des pulls au vert, marché dans les alentours, creusé son trou dans le village tranquillement. Bien sûr, elle restait à part. Non seulement elle n'était là que pour quelques mois, en plus, elle vivait à l'écart, de l'autre côté du pont. Et pour couronner le tout, elle était quand même un petit peu noire. En novembre, elle avait reçu la visite d'anciens compagnons de route, retournés depuis à leur vie normale, qui l'enviaient d'être restés si près du chemin. Isabelle disait « Il ne m'a jamais trop laissé le choix. » Qui ? Le chemin ? Il avait besoin de quelqu'un pour prendre soin de ses pèlerins. J'étais dispo, on a fait affaire. Et elle partait dans un de ces éclats de rire infréquentables qui secouaient les murs autour. À partir de la fin novembre, les pèlerins se firent rares. En cette saison, ceux qui s'aventuraient jusqu'ici étaient des sacrés bras cassés. Un homme à la limite d'être marginalisé, mais qui venait de trouver la foi. Un autre en rupture qui sortait d'une dépression. Une jeune fille fervente qui voulait rallier Compostelle à Assise, en Italie. Isabelle se faisait du souci pour eux, tentait de les garder quelques jours au refuge, veillait sur ce petit monde avec une énergie et inquiétude. Elle était heureuse d'être là, d'avoir gardé le refuge ouvert, avait le sentiment que tous ces pèlerins lui étaient envoyés à elle. Elle les écoutait, racontait un peu sa propre vie, parfois. Non, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire après ces mois passés à Los Arcos. Elle verrait bien, ici ou ailleurs, ce qu'elle aimait. Ce qui la tenait et qu'elle avait fait toute sa vie, c'était écouter, regarder, lire les autres, comprendre le fonctionnement, le pourquoi de l'intime au social. Toute petite déjà, en Afrique, on la récupérait dans les cuisines de l'ambassade, à épier les gestes des chefs, et dans la rue, où, parce qu'elle avait la même couleur de peau, les enfants la laissaient jouer avec eux. Elle s'était toujours étonnée de ces personnes à la double nationalité, ces gens de l'exil qui disent n'être vraiment chez eux nulle part. Elle, c'était tout le contraire. Elle était chez elle partout. Le 20 décembre, un jeune couple de pèlerins en voyage de noces fit étape chez Isabelle. Ils étaient profs tous les deux et avaient pris une année sabbatique pour se marier et voyager. Isabelle se moquait. Enfin, les enfants partir en pèlerinage en plein hiver. C'est rude comme départ dans la vie. Eux répondaient que le froid des refuges, la fatigue, la solitude, s'ils surmontaient tout, rien ne pourrait leur arriver. Mais comme justement il faisait bon dans le refuge de Babel, que la tôlière était drôle et cuisinait des délices, ils décidèrent de rester jusqu'à Noël. Le 22, une femme seule, terriblement seule, arriva à son tour. Elle voulait repartir, ne pas entendre parler des fêtes, mais Isabelle parvint à la garder au chaud. Le lendemain, deux autres pèlerins qui marchaient ensemble sans trop se connaître firent halte à Los Arcos. L'un d'eux venait d'être viré de son boulot. Il avait 50 ans. Qu'est-ce qu'il allait devenir ? L'autre était espagnol. Il passait sa vie sur le chemin depuis 3 ans maintenant. Il travaillait ici et là pour gagner sa croûte, puis repartait. Ce fut un Noël spécial, mélancolique. Chacun mit la main à la pâte. Isabelle emmena la femme à la messe et les autres suivirent. Au retour, on chanta des cantiques en dressant la table. Mais ce n'était pas très heureux. Alors on opta plutôt pour des chansons de feu de camp. Isabelle récita une prière en bambara. Les jeunes amoureux avaient décoré le refuge avec des bricoles achetées au village, étoiles de paillettes, papier crépon, un CD de musique brésilienne dans la chaîne Ifi des côtés d'occasion, son premier achat d'Hospitalera. En dessert, Isabelle avait acheté des kilos de gâteaux à l'anis, à la cannelle en forme de coquille Saint-Jacques, une soirée en demi-teinte parce que chacun parvint à donner le change, mais hormis les jeunes mariés et Isabelle, personne n'avait vraiment envie de fêter Noël. Le lendemain, tous reprirent la route. Isabelle les accompagna jusqu'à Torres del Rio, histoire de se dégourdir les jambes. Là-bas, sur la place du village, devant l'église templière, elle leur dit adieu, serra les amoureux dans ses bras et regagna sa petite maison, en espérant le retour du printemps. Et des pèlerins du printemps, sûrs que ce seront aussi des bras cassés. Mais, avec le soleil, les choses seraient plus faciles. Mara et Arpad marchaient l'un à côté de l'autre. C'était la fin de journée dans ce paysage lunaire de grands chemins et de falaises lointaines. Ils avaient fait la sieste à l'ombre des oliviers, étendus sur la terre et les racines. Mara s'était massé les pieds et avait arrosé Arpad qui avait trop chaud. Il s'était assoupi, dans ce demi-sommeil de rêve et de bruit, dont on se réveille ensuqué, sans idée du jour, du mois, de l'année. Plus tard, Mara se souviendrait de cette étape comme de sa préférée, avec celle qui mène de Burgos à Antanas. Pour le moment, ils marchaient main dans la main dans les rues de Los Arcos, qui commençaient à être gagnées par la fièvre de la soirée. Les volets s'ouvraient, les épiceries aussi, les vieux prenaient place sur leurs bancs, adossés aux murs chauds. Bientôt, on croiserait des familles, des ados, des commères. C'était un moment adoré de Mara en Espagne, ce début de soirée où la ville réveillait ses habitants. Elle se baladait, se mêlait à la foule, épiait les conversations, traînait jusqu'à la nuit. Ils décidèrent de poser leur sac au refuge, puis de revenir en ville faire quelques courses. Arpad avait repéré une boulangerie dans la Cala Mayor. L'auberge était un peu à l'extérieur de la ville, au-delà de la vieille porte de pierre. Alors qu'ils approchaient du chemin, Arpad, qui voyait plus haut et plus loin que Mara, remarqua que quelqu'un leur faisait signe. Arpad répondit en faisant des grands gestes avec ses bras, puis se ravisa. « Je ne la connais pas. » À leur approche, la femme aussi avait arrêté de s'agiter, mais elle les attendait en haut des quelques marches qui menaient à la terrasse. Deux vélos étaient garés dans le jardin où une grande table prenait l'ombre. Et puis, disséminés ici et là, des bureaux d'écoliers où des pèlerins écrivaient sur leur carnet de voyage ou papotaient. Cet endroit dégageait une sérénité incroyable. On parlait à voix basse, odeur de fleurs et de citrons. Les grandes fenêtres du premier étage étaient ouvertes, la porte d'entrée aussi. Par terre, au pied de la maison, était posé un grand panneau de bois coloré en jaune sur lequel était épeint « Chez Babel ». La femme qui leur avait fait signe devait l'être l'hospitalera. C'était la seule à n'être pas vêtue des habituels oripeaux du pèlerin. Elle portait un grand pantalon bouffant en lin blanc cassé, genre sarouel très élégant, un gilet noir près du corps qui moulait une poitrine pigeonnante et un foulard vert dans les cheveux. Elle leur sourit. « Oh, se tome posme nevechitos de Navidad ?» Je vous avais pris pour mes petits mariés de Noël. » Ce qui ne les avança pas vraiment. Mais Mara aima cette femme dès l'instant où elle entendit sa voix qui portait loin et enveloppait le monde entier. « Sin embargo no es Navidad, y no estamos casados. » La femme les installa en face d'elle sur des chaises d'écoliers. Elle tamponna leurs crédentials, s'arrêta sur la nationalité d'Arpad. « Mara y Arpad ?» Jo estet, isted ostia. Arpad était ravi, ses yeux brillaient, plissés. Il était à la maison. Brésil, Moscarial, nem asnajos. Mara n'en revenait pas. Habla húngaro, no solos do auto palabras, azaparat cuelor. Non, 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 juste deux mots pour frimer. Elle sourit. Un sourire a tombé et Mara se dit « Si j'étais un homme, je pourrais tomber raide dingue de cette femme en un claquement de doigts. » Elle ne savait pas ce que les hommes pouvaient tomber amoureux d'Isabelle en un quart de seconde. « Faites comme chez vous, les chambres sont à l'étage, pas de règles ici, pas d'interdits, pas d'horaire. » Mara murmura pour elle-même « Le paradis, quoi, et cette odeur de citron, c'est le lilas qui sent le citron. » Isabelle avait répondu dans un français parfait, sans accent. Et Mara demanda « Mais vous n'êtes pas espagnol ? Vous parlez parfaitement l'espagnol, le français, le hongrois, en plus ?»« Toi aussi, Negrita, tu parles les deux. Mon père était mexicain. Mon père était espagnol et maman était malienne. J'ai grandi un peu partout et quand on est môme, on apprend vite. » Elle avait répondu en haussant les épaules comme pour s'excuser. Ajusta son foulard dans les cheveux et ajouta « C'est vraiment le paradis ici, eau chaude à volonté. » Dans la maison, trois pèlerins cuisinaient déjà au son de la musique, du jazz. Comme Isabelle à son arrivée à Los Arcos des mois auparavant, Mara ressentit une onde de félicité. Cet endroit était fait pour elle. Elle le dit à Arpad, « Je crois que je vais prendre un jour de repos ici, attendre Clotilde et les autres. » Isabelle et Marat étaient dans le jardin. C'était l'heure calme. Les pèlerins étaient partis et ceux du jour pas encore arrivés. Isabelle n'avait vu aucun inconvénient à ce que ces petits mariés du printemps, mais on n'est pas mariés, je te dis, restent un jour de plus au refuge. Elle les avait même laissés se rendormir après le départ des autres pèlerins. La matinée s'était passée en lessive, ils avaient donné un coup de main pour les ménages et Arpad avait entrepris de cuisiner un dessert infâme bien chez lui, sorti des choux à la crème et au pavot. L'après-midi, il avait fait la sieste. Parfois, Marat oubliait qu'il ne marchait que depuis quelques jours. Il n'avait pas encore le rythme dans les jambes. Isabelle racontait comment elle était arrivée là, à Los Arcos. Un temps mort entre deux missions. Sa mère qui lui parlait des pèlerinages de Rome, de Lourdes, de Jérusalem, de Compostelle. Parmi tous ces noms, c'est Compostelle qui faisait le plus rêver Isabelle. Ça sentait moins l'eau bénite que Rome ou Lourdes et plus accessible que Jérusalem. Et puis, marcher, partir avec un sac à dos, un carnet, un crayon, elle adorait. C'était l'essentiel de sa vie quand elle passait des mois avec des peuples dont elle seule connaissait le nom. Mélangez tous les ingrédients et vous avez un départ du Puy-en-Velay le 29 juillet dernier sous un soleil de plomb. Le bonheur. Après, Isabelle avait adoré rencontrer tous ces pèlerins qui marchaient avec elle. Elle écoutait leurs histoires. Elle était la plus patiente des marcheurs. Parvenue à Fichtera, elle avait senti que son chemin n'était pas terminé, qu'il y avait encore à prendre et à donner. Elle n'était pas prête à quitter le Camino, ni son petit peuple itinérant. Les pèlerins l'émouvaient. Chacun avait une drôle de raison d'être sur ce chemin, d'avoir quitté sa maison pour marcher vers l'ouest. Souvent, elles étaient à fendre le cœur, ces raisons du départ. Isabelle se tut un instant, sourit et dit « Tu sais, ma mère est malienne, je connais bien là-bas, et quand il y a un problème, une question à régler, on se réunit dans une pièce où siège le chef du village ou de la famille. Cette pièce, on l'appelle le vestibule. Chaque village a son vestibule, chaque famille aussi. C'est aussi la pièce où l'on mange tous ensemble et où on fête les mariages, les morts. Je ne veux pas te faire un cours d'ethnologie. Continue, je ne connais pas l'Afrique. Je ne te parle pas d'Afrique, je te parle de chemin, de Compostelle. En marchant jusqu'à Santiago, et surtout en faisant l'Hospitalera ici, j'ai rencontré tant d'histoires inextricables, de pèlerins emmêlés. Et pourtant, on marche, on se parle, on s'épuise, on prie parfois. On se refile des pansements, des idées réconfortantes, des pommades miraculeuses. Le chemin de Saint-Jacques, pour moi, c'est le vestibule des perdue. Marat sourit comme une enfant à qui on a confié un secret de grande personne et elle répète « Le vestibule des causes perdues ». Babel fait la moue. « Bah oui, je n'ai pas trouvé mieux. Comme vestibule, on vient y régler les problèmes, sauf que ce ne sont pas des problèmes qu'on trimballe, ce sont des causes perdues ». Marat pensait à Clotilde, à Arpad, à sept lieues, au Breton, à Robert, il y en avait plusieurs dans la bande qui devaient effectivement se promener avec une cause perdue. Enrique, Bruce, et puis elle, Marat. Elle avait raison, Babel. Sur le chemin, les causes perdues s'entrechoquaient dans un tintamarre étourdissant comme les cloches au cou des chevaux dans les Pyrénées. Elles se répondaient, tintinabulaient pour t'appeler, pour se retrouver, pour ne pas te perdre.
Au soir, Marat retrouva Clotilde, qui lui tomba dans les bras, lui présenta Arpad. Clotilde avait entendu des rumeurs sur le chemin qu'une petite Française et un grand Hongrois au prénom étrange s'étaient bien plu et marchaient ensemble depuis Pampelune. Mais les rumeurs n'étant pas sa tasse de thé, Clotilde avait passé outre. Ce soir, en voyant Arpad, comme il couvait Marat du regard, comme elle le laissait approcher, Clotilde comprit que pour une fois, la rumeur disait vrai. Elle en fut émue et heureuse. Marat resta près de Clotilde pendant qu'elle faisait sa lessive, s'extasiait devant la beauté et la paix de l'endroit. « Quel délice cette Babel !» disait Clotilde. « Et cet endroit, un havre !» Arpad lui avait apporté des makos gouba. C'est les sortes de petits choux à la crème et au pavot. « T'es pas obligé d'aimer !» avait dit Marat. Clotilde avait levé les sourcils. « Marat, enfin !» Elle avait avalé son assiette et remercié Arpad, heureux de trouver un bon public à ses exploits culinaires. « T'en as de la chance, Arpad, qu'elle soit bien élevée, Clotilde. »« T'es un peu rude avec lui, quand même. »« Mais non, je veux pas l'encourager, c'est tout. Depuis qu'on se connaît, il n'arrête pas d'essayer de me nourrir. »« C'est normal, il a peur que tu t'envoles, légère comme tu es. » Comme à Ostabat, comme elles avaient les mains dans leur lessive, Robert leur était tombé dessus, accompagné d'Enrique, Sofia et Flora. Depuis Roncevaux, ces quatre-là ne se quittaient plus. Clotilde avait compté les derniers potins à Marat et Babel, et parmi les potins, il y avait Robert et Flora. Marat avait dit « J'espère juste qu'elle ne le fera pas trop souffrir. » Enrique se portait à merveille, il interpellait tous les copains dans le jardin, papota avec Marat, dérangea sept lieues qui fumaient dans son coin. 5 jours que la joyeuse troupe était dispersée. Les retrouver tous d'un coup le mettait dans une joie démesurée. On aurait dit qu'il ne voulait pas les quitter, les copains. Même pour rentrer poser son sac dans le dortoir et prendre sa douche. Marat lui avait présenté Arpad, qu'il avait gratifié d'une tape dans le dos et d'une mise en garde sur le thème « « Fais gaffe, le Hongrois, Marat, je l'adore, elle est toute petite et toi, je sais pas qui t'es, même si t'as l'air sympa. » Marat avait lancé un regard noir au Brésilien. « De quoi je me mêle ?» Dieu merci, Arpad ne comprenait pas le portugais. Il avait juste rendu sa table dans le dos à Enrique. Bruce et le Breton étaient arrivés bon dernier. 7 lieues les avaient semés le matin en partant à l'aube. Certains jours, il ne fallait pas lui adresser la parole. Selon le Breton, il cogitait. Mais là, quand même, en voyant arriver Robert, il avait eu l'air drôlement content, le cow-boy. Il s'était déplié, avait quitté son bout de jardin pour accueillir le copain. Il clopait toujours et Robert avait fait la grimace. « 7 lieues, ça pue, il y a des dames !» 7 lieues s'était excusé, avait écrasé son mégot sous sa chaussure et avait fait la bise à Sofia et Flora. C'est vrai que c'était quelque chose de revoir tout le monde. Personne ne s'était tellement préoccupé des courses, alors on décida que quelques kilos de pâtes avec de l'huile d'olive feraient l'affaire. Personne n'avait l'air très motivé, mais Babel prévint. « Faut pas tarder, hein, le samedi, les épiceries ferment plus tôt. » Alors Bruce s'était levé. « J'y vais. » Il était presque arrivé dans le centre du bourg quand il reconnut le pas de 7 lieues derrière lui. « Je suis venu pour pas que t'oublies les bières. » Quand Bruce sortit, ses sacs plastiques au bout des bras, 7 lieues lui proposa une cigarette. « Mais je fume pas à 7 lieues. »« Ouais, je sais. » »« Bon, quand 7 lieues proposait une clope à Bruce, c'est qu'il avait quelque chose à lui dire. Il s'appliquait, ce devait être important. Bruce se taisait et marchait doucement. Alors 7 lieues se lança. « Cette histoire de salaud qui marche pas, là, les gars qui se crachent dans le désert ou dans les montagnes, là, il faudra me l'écrire sur un papier. » Bruce s'arrêta, dévisagea 7 lieues. N'aurait jamais cru que ce qu'il racontait au cow-boy puisse le toucher. Dit « Ok, mec, je le ferai. » 7 lieues hocha la tête, eut un sourire absent et éteignit son mégot sur sa semelle. « Fais pas ça, 7 lieues. Arrête de griller tes chaussures avec tes cigarettes. Elles n'ont pas besoin de ça. » Quand ils entrèrent dans le jardin de l'auberge, tout le monde les applaudit. Babel et Clotilde se saisirent des sacs et disparurent dans la maison. Bientôt, on sentit une odeur de chaux et d'huile d'olive. Ce soir-là, à la table de Babel, Bruce et le Breton parlaient de choses et d'autres. Bruce demande « Le Breton, c'est quoi votre vrai nom ?» L'autre pince les lèvres, se rend compte qu'il s'est habitué à ce surnom, qu'il est devenu le Breton, n'a pas vraiment envie que son vrai nom soit vraie vie, fasse irruption dans le jardin de Babel. « Et vous, Bruce, c'est original comme prénom ?» Bruce esquisse une grimace, écarquille les yeux, boit une gorgée de bière. La vérité ? Le Breton sourit. C'est donc si grave ? Oh, vous imaginez pas. Bruce baisse la voix. Quand ma mère était enceinte, elle a lu ce livre à l'eau de rose qui raconte la vie d'une courtisane anglaise, Ambre. Vous connaissez ? Bah non, pas tant mieux. Le grand amour de la courtisane s'appelle Bruce. Voilà. Aïe, ah, je vous le fais pas dire. Bruce n'avait pas remarqué qu'Enrique avait rejoint les filles dans la cuisine et que Babel, sans voisin, écoutait leur conversation. Elle les regardait, le Breton et lui, avec un sourire terrible. Un verre de rouge à la main, Bruce n'avait jamais rencontré une femme aussi séduisante. Pour la première fois, elle comprenait pourquoi on pouvait qualifier une femme de créature. Babel était une créature. Et Bruce se sentit dévasté. Elle dit « Moi, je pense que tout prend sens. Je suis certaine que votre prénom a apporté des choses positives dans votre vie. » Bruce se redressa, essaya d'être à la hauteur, drôle, spirituel, mais ne trouva pas. Il répondit juste « C'est une façon de voir, hein. Moi, je suis du genre pessimiste. » Babel fit un mouvement de tête, comme si elle s'étirait, comme une liane. « Ah bah voilà bien une chose qui m'est étrangère, le pessimisme. Vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne ?» Bruce ne savait même pas si elle se moquait de lui ou pas, se tourna vers le Breton, mais son compère n'avait pas l'intention de voler à son secours. Il regardait la passe d'armes, l'air amusé, et n'aurait pas misé un copec sur Bruce Velden. « Vous faites quoi dans la vie, Bruce ?»« Prof. Prof de lettres. » C'est là que le Breton avait quand même tenu son rôle de bon copain en ajoutant « à la Sorbonne tout de même ». Bruce, rassuré par le tour que prenait la conversation, demanda « Et vous ?» Ethnologue. Et pourquoi devient-on ethnologue ? Et pourquoi devient-on prof de lettres ? Bruce se pencha vers Babel de l'autre côté de la table et dit « Le jour où j'ai enfin compris pourquoi ma mère m'avait appelé Bruce, j'avais 15 ans et elle m'a offert une vieille édition du roman de Kathleen Windsor. Je crois que j'ai été traumatisée et que je suis devenue prof de lettres pour tenter de réparer. » Babel éclata de rire. Bruce ne l'avait pas encore entendu rire et il n'en revenait pas. De ce séisme qui n'en finissait pas, se dit que l'affaire rire, c'était déjà ça. Puis Babel se pencha, sa poitrine écrasée sur la table, éclairée par les bougies, et murmura « J'adore ce roman. Mon livre de chevet de 13 à 17 ans. Ça compte ? Ben, c'est une blague. » Babel s'était redressée. « Non, j'ai toujours rêvé de rencontrer un homme qui s'appelait Bruce, Lord Bruce Carleton. » Bruce ne pouvait rien faire d'autre que répéter « Mais c'est une blague !» Mais Babel s'était levé de table, il était resté seul avec le Breton qui le regardait en coin, le sourire aux lèvres. Bientôt, de la musique s'échappa de l'auberge. Sophia, Flora et Arpad arrivèrent avec une pile de petites assiettes. Les bavardages reprirent de plus belle, ici en portugais, là en anglais, en espagnol, en français, quelques mots de hongrois. Bruce pensa que l'auberge portait bien son nom, qu'on était vraiment chez Babel, comme écrit sur le panneau adossé au mur dont les lettres blanches se détachaient dans la nuit. Babel. Grisé par le vin de pays dont le Breton avait rempli sa chope après le départ de Babel, il dit « C'est après le déluge que les hommes ont construit leur tour de Babel, vous le saviez ? » Le Breton secoua la tête. Robert venait de les rejoindre, la mine superbe, deux assiettes de salade de fruits dans les mains. « C'est pour vous ! Vous nous snobez à rester dans votre coin. Flora a préparé de la salade de fruits, vous m'en direz des nouvelles. » Bruce répéta. « Tu le savais que c'était après le déluge que les hommes avaient construit la tour de Babel ? » Robert dit. Mara dit que tous nos malheurs mis ensemble, à nous autres, sur le chemin, c'est aussi grave que le déluge. Bruce continuait. On prétend que c'était pour monter au ciel, par orgueil, qu'ils ont construit cette tour. Le Breton devina que Bruce voulait les emmener quelque part et il aimait bien être baladé par Bruce. Il acquiesça. Ouais, on le dit. C'est une erreur. Ils ne l'ont pas construite pour défier Dieu. Ils l'ont construite pour rester ensemble, pour vivre les uns avec les autres au lieu de se disperser. La construction verticale évitait la dispersion sur la surface de la terre. Robert soupira. Normal. Après le déluge, fallait mieux se serrer les coudes. Et Bruce ajouta. Peine perdue. Ce n'étaient pas les plans de Dieu. Pour obliger les hommes à se séparer, il a inventé plein de langues différentes et ils ne se sont plus compris. La tour s'est écroulée. La tour de Babel. Le Breton sourit, il avait saisi. Robert dit « Babel comme notre Babel, là ?»« Oui, ici on est chez Babel. Robert parle avec Arpade, Clotilde s'entend avec Flora, Isabelle danse avec Enrique. Vous voyez pas? On a gagné! Bruce avait l'air heureux. Robert attrapa une bouteille de vin et remplit les verres de ses copains en désignant Babel du menton. Je me disais bien qu'elle était spéciale, cette fille. Tu sais à qui elle ressemble? À personne, elle ne ressemble à personne, Robert, déconne pas! Robert rigola. Ah ben t'es pris, toi, hein? Tu ne peux pas savoir parce que tu n'es pas parti du puits. Dans la cathédrale du puits, il y a une statue de la Vierge. Normal, tu vas me dire. Sauf que cette Vierge-ci, elle est noire. Avec tous ses foulards, Babel lui ressemble. Le Breton se racla la gorge. Non mais t'exagères un peu. Babel est bien plus belle que la Vierge du puits. Mais elle lui ressemble. Le lendemain, tout le monde fut long à s'arracher au refuge de Babel. On fit traîner le petit déjeuner, les préparatifs, les soins des pieds dans le jardin. Sans se l'avouer, chacun avait le sentiment d'être arrivé quelque part, une étape importante du chemin. On s'était rencontrés, perdus, retrouvés. Maintenant, on ne marchait pas loin les uns des autres jusqu'à Santiago. À l'heure du départ, Bruce était blême. Il avait beau prendre son temps, faire et défaire son sac, arriver le moment de s'éloigner de Babel. Dans le jardin ne restait que Robert qui finissait de raccommoder les chaussures de sept lieues et sept lieues qui attendaient ses chaussures. Et Bruce qui enlevait et remettait les siennes sur le seuil de la maison. Babel était venue s'asseoir à côté de lui sans rien dire et avait posé sa tête sur son épaule. Bruce n'osait plus bouger. Il regardait au loin, respirait doucement. Il ne voulait pas la déranger, que cet instant prenne fin. Ce fut comme un tremblement de terre. Soudain, il comprit qu'il attendait que cette femme se repose sur lui. Il sut qu'il ne s'enfuirait plus pour qu'elle pose sa tête sur son épaule aussi souvent qu'elle le désirerait. Elle se redressa, mais resta assise à côté de lui et chuchota. « Et après ? Après Santiago ?» Bruce frissonna. « Je sais pas. Ce sera l'été, les vacances. La rentrée est en octobre. Cela me laisse le temps. » Babel se taisait. Elle regardait Robert et cette lieue. Bruce s'attrapa au vol une bribe de courage qui passait par là et demanda « Et vous ? Vous, Babel ? Je reste jusqu'à fin septembre. Après... » Puis elle se leva et Bruce en fut bouleversé. Il se leva lui aussi, il était tout proche d'elle. Pour se donner une contenance ou pour tenir debout, il attrapa son bâton et son sac à dos. « Vous partez, Lord Bruce Carlton ?»« Velden, je m'appelle Bruce Velden. » Babel sourit, ses yeux comme des harpons dans ceux de Bruce. « À bientôt, Lord Bruce Velden. » Lorsqu'enfin Bruce se mit en route, l'horizon lui sembla instable. Au loin, Torres del Rio s'effondrait. Il éprouvait pour la première fois combien la marche est un déséquilibre. Chaque pas projette dans le vide. Chaque pas prend le risque de la chute. On se rattrape, on s'accroche, mais l'horizon tremble au bout du chemin. Il entendit Robert et sept lieues le rejoindre, mais ne se retourna pas. Il ne vit pas Babel s'avancer sur le seuil où elle resta longtemps enveloppée dans un long châle. Comme une gardienne de phare, elle éclairait, elle guidait, elle attendait.
Sorrir tão formosa e no vestir sempre airosa, no branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa. Sempre a verde saudade, cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, Senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das tolidades reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam.
Le bon Dieu endormi. Burgos, ville blanche. Clotilde a passé l'après-midi à visiter la cathédrale. Sophia et Flora se sont offert une séance dans un institut de beauté. Mara et Arpad sont restés longtemps allongés sur un banc de la Plaza Mayor. Puis ils ont marché le long de la rivière, presque un ruisseau. La cathédrale émerge, immense, écrasante, une ville monumentale avec un si petit ruisseau. Mara a acheté une carte postale de la statue du Cid pour Marité. Elle lui raconte les derniers jours, qu'en Espagne, Saint-Jacques a fait plein de miracles. Et du coup, de drôles de choses parsèment le chemin. Dans l'église de Santiago, par exemple, on trouve un poulailler. Oui, un poulailler, une poule, un coq, dans une cage en hauteur sur de la paille. Elle raconte aussi la merveilleuse traversée de la forêt qui borde le monastère de San Juan de Ortega. Des nappes de brouillard surgissent des sous-bois pour envahir le chemin, même en plein jour, même accompagné d'Arpad. C'était très impressionnant. Au temps ancien, les pèlerins redoutez cette forêt pleine de brigands et de loups. Et puis, il y a cette haute croix où sont accrochées des fleurs fanées, des bouts de tissu rouge, mauve et jaune. Dans une pochette plastique, un petit mot en espagnol. Comme on s'était arrêté pour respirer et grignoter au pied de la croix, Mara avait eu le temps de déchiffrer l'écriture. Un matin de 1950, des hommes en bleu, des fascistes, sont venus chercher deux frères chez leur mère et ils ont été tués là, au pied de la croix. Mara se souvint de cette guerre lointaine. Au Mexique, son père avait été élevé avec des enfants d'exilés. Les enfants des républicains qui avaient dû quitter leur pays pour fuir la dictature. Quand elle était petite, il lui faisait écouter des chansons. On racontait cette histoire pour travailler son espagnol, il disait. Elle se souvenait surtout des yeux des amis espagnols de Paris quand ils parlaient de leur pays. Les yeux d'un chagrin immense. Le père de Mara expliquait que ce n'était pas leur pays qu'ils pleuraient ainsi sans larmes. C'était leur rêve, le vieux rêve espagnol. C'était leur jeunesse et les copains qui n'avaient pas pu fuir au Mexique ou en France. Mara avait raconté cette histoire à Arpad, qui était gourmand de tout ce qui se passait par la tête de Mara. Bruce et sept lieues les avaient doublés sans s'arrêter. À San Juan de Ortega, Mara et Arpad avaient pris un pot au soleil à la terrasse du café, veillé par l'immense monastère. Bruce et sept lieues étaient là aussi, se demandant s'ils n'allaient pas dormir plus loin. Bruce voulait arriver de bonne heure à Burgos, il avait une idée derrière la tête et Mara savait laquelle. Quelques jours auparavant, à Landgrono, il était venu trouver Clotilde et Mara qui trempaient leurs pieds dans la fontaine du refuge. Il leur avait demandé, avec votre sens pratique, à votre avis, cet lieu, il chose du combien ? Clotilde avait répondu « À vue de nez, un bon 46 ». L'air suspicieux, Mara avait demandé « Pourquoi ? » Bruce avait expliqué qu'il souhaitait acheter des chaussures neuves à cette lieu, qui n'arriverait jamais jusqu'à Saint-Jacques avec ses godillots ruinés. Bien sûr, l'autre refuserait. Il suspecterait Bruce de je ne sais quoi. Vous le connaissez. Bref, Bruce devait agir seul, mettre cette lieu devant le fait accompli. Mara leva le nez. Tu n'as qu'à regarder sa taille sous sa semelle. Elles sont trop usées. J'ai regardé hier quand il prenait sa douche. Impossible, tout est effacé. Eh bien, il faudrait que tu les essayes, ces chaussures, et que tu les compares par rapport à la taille. Le regard de Bruce s'illumina. Grand handicapé du sens pratique, il était sincèrement admiratif des personnes capables de solutionner ce genre de problème. Génial, bonne idée. Et disparut dans le dortoir. « En voilà deux qui se sont vraiment trouvés, » dit Clotilde. Attends, c'est pas gagné. Encore faut-il que cette lieu accepte. Il se méfie de tout. Il est bien capable de se méfier d'une paire de pompes. » C'était exactement ce que craignait Bruce. Et jusqu'au dernier moment, il n'osa pas parler de son projet à cette lieu. Devant la vitrine de la boutique de sport où il avait repéré des pompes parfaites, il se dégonfla. Le lendemain, en quittant Burgos, Bruce avait des regards plein le chemin. La prochaine ville, c'était León. D'ici là, on ne trouverait certainement pas de boutique de chaussures digne de ce nom, et cette lieu risquait de se blesser ou de devoir carrément marcher pieds nus. Les faubourgs de la ville étaient encore sombres de la nuit. Bruce dépassa Mara et Arpad, voulut leur toucher mot de son souci, mais Mara était accrochée au bras d'Arpad et avait les yeux clos. Elle dormait en marchant. Il faut dire que l'hospitalero du refuge de Burgos était un fou furieux qui avait allumé les léons à 5h du matin et foutu tout le monde à la porte. Alors Mara somnolait au bras d'Arpad, fière comme un prince. Il salua Bruce, qui les laissa en paix, les amoureux, et accéléra le pas. Plus loin, perdu dans un troupeau de moutons, un troupeau infini, Mara raconta à Arpad les moutons magnifiques du Pays Basque. Ils avançaient lentement au rythme des bêtes. Quand ils quittèrent les moutons, le chemin s'élevait sur un plateau. On marchait au milieu de nulle part, à perte de vue des champs. Ontanas ne devait pas être bien loin, mais ce paysage donnait l'impression que l'on pourrait marcher des jours entiers sans rencontrer de village. Mara racontait à Arpad le chemin français, l'Aubrac, au Villard, Marité. Les petites prières qu'on te distribue au départ du puits. » Arpad demanda, « Et tu transportes la prière de quelqu'un, toi, Mara ?»« Non, maintenant je pourrais, mais à l'époque je ne m'étais pas senti capable de porter de prière de quelqu'un, j'avais déjà bien assez avec moi-même. Et tu avais écrit une prière, toi, ta prière sur un petit papier ?»« Oui, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Tu n'allais pas très bien, Mara ?» Mara le regarda, sourit à son regard doux et inquiet. Il était difficile aujourd'hui d'imaginer qu'elle avait été si mal quelques mois auparavant. Non, je n'allais pas bien du tout. Elle était essoufflée, le chemin avait descendu un vallon et remontait maintenant vers un plateau. Babel pense que tous les pèlerins qui marchent sur ce chemin sont partis de chez eux, appelés par une cause perdue. Elle dit qu'on trimballe nos causes perdues dans le sac à dos jusqu'au bout du chemin. Et après, qu'est-ce qu'on en fait au bout du chemin ? Je ne sais pas, on verra bien. Arpad avait un pas irrégulier. Il aurait pu marcher beaucoup plus vite, mais il voulait rester au rythme de Mara, ce qui n'était pas évident. « C'est quoi ta cause perdue, Mara ?»« Je crois que c'était moi, ma cause perdue. J'étais une cause perdue à moi toute seule. Et toi, ma cause perdue à moi ?» Mara hocha la tête. Arpad hésita. On était arrivé en haut de la côte, sur le plateau. Le vent soufflait, chassant de gros cumulonimbus qui dessinaient des ombres mouvantes sur la terre. Un paysage étrange et exaltant. Arpad se sentait l'énergie de marcher jusqu'au bout du monde. Le soleil était encore haut, il faisait très doux. C'était maintenant ou jamais de dire les choses. C'est un petit garçon. Arpad épiait Mara. Il avait peur de la perdre, comme il avait perdu Emez, sauf que ce serait bien pire de perdre Mara, mille fois pire. Pour la trouver, il avait fallu une succession d'événements exceptionnels qui n'avaient aucune raison de se reproduire avant 1000 ans. C'est pour cela qu'il avait jusque-là éludé la question de la petite chaussure. Mara chuchota. « Le propriétaire de la chaussure taille 22 qui pendouille sur ton sac à dos ?»« Oui. » La réponse sembla suffire à Mara. Pour le moment, elle ne demanda pas plus de précision. Elle n'était pas partie en courant. Arpad remercia le bon Dieu. Bientôt, on aperçut le clocher de l'église de Ontanas. Jusque-là, à leurs pieds, le village ocre et rond blotti dans le creux du chemin, tellement bien blotti qu'on ne le voyait qu'au dernier moment. Arpad et Mara allongèrent le pas. L'apparition d'Ontanas avait quelque chose d'un mirage. Il voulait s'assurer qu'il n'avait pas rêvé. une dernière descente et ils atteignirent le centre du bourg parsemé d'auberges. Cet lieu était assis là, devant l'une d'elles. Mara lui demanda s'il y avait de l'eau chaude. Il tenait un papier soigneusement plié en quatre dans la main qu'il passait entre ses doigts. Bruce comprit que, contrairement à tous les autres pèlerins, cet lieu n'était pas là pour sa pomme, mais pour un autre. Il n'aimait pas être là, il angoissait. Ce n'était pas sa place, mais il marchait et avançait quand même. Pour son père, c'est ce qu'il voulait expliquer à Bruce. C'est pour cette raison qu'il avait lancé la conversation, expliquer pourquoi il accepterait peut-être son cadeau sans trop faire de problème. Pour son père. Ils étaient arrivés en haut du village. Cet lieu regarda Bruce prendre des photos, puis s'asseoir sur la haute marche d'une maison. Il se posa à côté de lui. « Le papier avec l'histoire du salaud qui ne marche pas. » Bruce regarde au loin. Cet lieu continue. « Je l'ai trouvé dans les chaussures qui étaient au pied de mon lit, à côté de mon sac à dos. C'est toi qui m'as mis ça ?»« Oui, c'est pas mes chaussures. »« Alors pourquoi tu as pris le papier s'il n'était pas dans tes chaussures ?» Tu me prends pour un con parce qu'il y avait écrit « sept lieux » en gros sur le papier et que les chaussures étaient au milieu de mes affaires. Ce sont mes chaussures, je te les donne. J'ai vérifié, on fait la même pointure, elles devraient aller. Sept lieux restait silencieux. Il regardait ses vieux godillots tout déconfits. Pourquoi tu fais ça, Bruce ? Parce que tu n'arriveras jamais à Saint-Jacques avec tes épaves. « Et toi, comment tu vas marcher ? J'ai des sandales de marche, elles feront l'affaire jusqu'à Léon. Et là-bas, on verra si j'ai besoin d'une autre paire de chaussures. Mais peut-être qu'elles suffiront s'il fait beau. Mais pourquoi tu fais ça, Bruce ? Parce que t'es mon pote. J'ai pas d'amis. Je m'en fous, cet lieu. Moi, j'en ai des amis et maintenant t'en es. » Cet lieu ne se considérait pas comme un connard, mais quand même estivait qu'il n'a pas fait grand-chose pour mériter de telles pompes. Se dit aussi que peut-être bien que le bon Dieu s'était endormi pour de bon et lui foutrait la paix maintenant. De toute façon, Bruce avait raison, il n'aurait pas pu arriver à Saint-Jacques avec ses vieilles grolles, un moment qu'il le savait. Il essayait de ne pas y penser, mais depuis deux jours, la semelle droite s'était cassée en deux, et il passait son temps à la remettre en place. Ce n'était plus possible. Bruce était pensif. « Quand on s'appelle sept lieux, on ne peut pas porter des chaussures pourries. » Sept lieux sourit. « T'as raison. » Bruce enfila son blouson de Robocop. « Moi aussi, je suis là à cause de mon père. » Cet lieu enleva son chapeau, regarda par terre, puis se tourna vers Bruce. La marche sur laquelle ils étaient assis n'était pas bien longue. Ils étaient un peu collés, leurs visages tout près l'un de l'autre. Cet lieu répéta « À cause de ton père ?»« Oui, à cause de mon père. Je vais avoir l'âge auquel il est mort. Je veux dire, il est mort le jour de ses 39 ans. » « J'ai les jetons. » Cet lieu remit son chapeau. Bruce continua. « Je vais être plus vieux que lui. »« Ça va être bizarre. »« Bizarre, c'est bien le moins. »« C'est quand ?»« Quand quoi ?»« Que tu vas avoir 39 ans ?»« Le 6 juin. » Cet lieu sortit son paquet de cigarettes, alluma une clope, les yeux dans le vague. Il hochait la tête. Bruce lui sut gré de cet air compatissant. Un instant, il eut l'impression que tous les deux, assis sur cette marche à Antanas, ils regardaient passer son enterrement. Il aurait presque pu le voir, son cercueil, dans la rue principale qui descendait vers l'église. Alors, cet lieu dit « C'était la semaine dernière. » « Quoi ? Le 6 juin ? C'était la semaine dernière. On est le 9. » Un instant, Bruce crut à une blague, sortit sa crédentiale et put lire en effet qu'aujourd'hui était le 9 juin. Le 6 était passé. Hésita entre le malaise et le fou rire. Une douleur intercostale le saisit. Il se tint le torse. Mais ça passa. L'infarctus n'était pas pour aujourd'hui. Se sentit idiot, mais idiot, il dit. « Je suis con, hein ?» Cet lieu tourna la tête vers lui, la clope au bec. « Et pas qu'un peu. » Bruce voyait bien que cet lieu se foutait de lui, mais aussi qu'il avait compris la grande peur qu'il avait pu éprouver la même. En même temps, il ressentit un soulagement infini. Des ondes à la poitrine, quelque chose se dénouait, comme un corset qu'on enlève après des années. Tout, la peau, les poumons, tout respirait mieux. Bruce se sentit euphorique. Il avait conscience de son air benêt, mais s'en moquait. emporté par le quotidien, par ses problèmes de pied, de tendon d'Achille, fatigué, captivé par la vie, comme elle va sur le chemin de Compostelle, préoccupé par les chaussures de cet lieu, entouré par Marat, Arpad et les autres, il avait oublié de compter les jours et la date fatale était passée. Il n'était pas mort. Bruce se leva, cet lieu en fit autant, alluma une clope, en proposa une à Bruce. « Je fume pas, cet lieu. Oui, je sais. Je peux te demander une chose, n'éteins pas tes mégots sur tes nouvelles chaussures. Ne les crame pas, ok ? Ok, Bruce. »
Eh bien, voilà, l'été se termine et la balade sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi.
Il ne se termine pas du tout, justement.
Nous allons quitter, ça se termine pour nous en tout cas.
Mais oui, mais
nous allons quitter tous nos amis.
Il faut surtout continuer à découvrir
la vie de
tous nos amis.
En vous laissant sur votre faim et découvrir tout seul comment se termine ce vestibule des causes perdues de Manon Moreau.
Surtout que ça ne se termine pas à Compostelle, comme on pourrait le croire.
Exactement.
Car après Compostelle, le chemin peut continuer.
Ah, mais là, t'es en train de divulgâcher.
Voilà. Non, et il se passe encore plein de choses.
Parce que là, on se pose plein de questions sur tous ces amis. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après le chemin? Et donc, peut-être qu'on saura mieux à la fin du livre. Donc, il faut lire la fin.
Très bien. Eh bien, merci pour ce bel été avec Manon Moreau. Nous nous retrouverons à la rentrée début septembre avec un nouveau livre.
Exactement. Et comme d'habitude, tu vas me demander lequel
livre tu as choisi.
Et je n'en ai pour l'instant aucune idée.
Bien.
Très bien. Eh bien, à très bientôt.
Avant tout le monde, au revoir.